Deutsche Welle, Économie et développement.
Un moteur qui fonctionne non pas avec de l'essence, mais avec de l'eau. C'est surprenant, non? Eh bien, vous allez découvrir le projet HydroPower qui allie accès à l'énergie et protection de l'environnement. Son créateur est un jeune Togolais. Notre correspondant à Lomé est allé à sa rencontre. Et puis, on parlera aussi des efforts des économies africaines pour moins importer et davantage produire sur place. Vous entendrez Isabelle Ramdou, conseillère au Centre africain de développement minier. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, c'est Claire-Marie Kostmann au micro, bienvenue. À Lomé, l'association Energy Generation soutient de jeunes Africains qui veulent relever le défi de l'accès à l'électricité pour tous sur le continent. Elle promeut l'innovation technologique et l'entrepreneuriat en espérant que des solutions pourront être menées à grande échelle. Et c'est donc cette association qui soutient le projet HydroPower. Les explications de notre correspondant Noël Tadénion.
Le jeune Togolais Lal Nandjagou est en pleine expérimentation du prototype de l'HydroPower. L'HydroPower permet de réduire la consommation en carburant des groupes électrogènes en utilisant l'hydrogène. Ce projet vise la réduction de la consommation d'énergie fossile et des émissions de gaz carbonique.
C'est un moteur qui fonctionne à partir de l'eau. On n'utilise plus de l'essence pour le faire fonctionner.
L'HydroPower se base sur le principe de l'électrolyse de l'eau. Lal Nandjagou.
Quand on décompose l'eau à partir du courant, on a l'hydrogène et l'oxygène. Et ces deux gaz qui participent à l'explosion dans les moteurs qui consomment de l'essence. Donc les autres éléments ne sont que des éléments de masse qui n'y participent pas à la combustion. Donc en observant l'eau, on a carrément ces deux éléments purs et qui n'est pas mélangé avec du carbone.
Il utilise de l'eau et y ajoute parfois d'autres composantes pour atteindre son objectif.
Si l'eau n'est pas conductrice, je l'ajoute à la soude pour permettre l'échange des électrons. Et à la suite, j'ai l'hydrogène et l'oxygène. Et que je peux utiliser l'hydrogène pour faire fonctionner un moteur comme si c'était de l'essence que j'utilisais.
Une véritable révolution, surtout pour les appareils utilisés pour la soudure qui habituellement fonctionne à l'essence. Lal Nandjagou insiste sur les avantages de son projet HydroPower.
C'est une énergie propre, c'est-à-dire sans carbone. Et c'est une énergie tout à fait renouvelable parce que l'eau arrive à tout moment et l'eau représente 71% de la planète. C'est-à-dire que si on doit utiliser de l'eau, cette énergie serait plus sûre et lointaine et impérissable. Car en termes de puissance qu'on utilise de l'eau par rapport à l'essence, en termes d'explosion, elle fait 3 fois celui de l'essence. C'est-à-dire très très économique et très très puissant pour être utilisé comme source d'énergie.
Âgé de 24 ans, Lal Nandjagou fait partie d'un groupe de jeunes soutenus par l'association Energy Generation. C'est une structure qui aide les jeunes Africains porteurs de projets capables de faire face aux défis de l'accès à l'énergie pour tous sur le continent. Ces jeunes ont été sélectionnés dans le cadre d'un concours et suivent une formation d'un an. Astria Fataki, présidente de l'association.
Ces jeunes ont été sélectionnés sur la base d'un projet. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de les aider à transformer ce projet, donc cette idée, en réalité. Et donc pour ce faire, on met à leur disposition des moyens, donc financiers, techniques, un accompagnement pour qu'ils puissent réaliser un prototype. Et de la base de ce prototype, un business plan et un business model solide pour pouvoir commercialiser leur invention.
Ces jeunes viennent du Congo, de l'Éthiopie, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Ghana et du Togo. Et chacun est porteur d'un ambitieux projet pour l'Afrique.
Franchement, je suis reconnaissant de cette association parce que ça fait longtemps que je gère partout pour chercher d'aide et pour pouvoir concrétiser au moins une de mes idées. Et c'est une opportunité pour moi. La raison pour laquelle j'ai dû laisser les études universitaires.
Tous ces jeunes sont accompagnés pour mettre en œuvre ces projets innovants et pour trouver des financements alternatifs afin d'aller eux aussi à la conquête du marché. Astria Fataki.
Pour moi, en Afrique, la principale ressource dont dispose l'Afrique, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse et certainement la ressource la moins exploitée, avant même le soleil, c'est l'ingéniosité de cette jeunesse qu'on ne met pas suffisamment en avant justement pour résoudre à un niveau structurel ces problématiques-là de développement.
Energy Generation Academy voudrait pousser ces jeunes à trouver des solutions concrètes génératrices d'énergie non conventionnelle à bas coût pour le continent africain. Noël Tadigno Alomé pour la Deutsche Welle.
Vous savez, nombreux sont les pays africains exportateurs de pétrole ou de minerais, des richesses à haut potentiel, sauf qu'en cas de crise des prix, les revenus baissent. Alors comment réduire cette dynamique ? Eh bien en les incitant à davantage investir dans des structures industrielles et dans des infrastructures, et par là même mieux développer leurs liens avec les pays voisins plutôt que ceux d'autres continents. Isabelle Ramdou est conseillère au Centre africain de développement minier, rattachée à la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Cette structure appuie notamment le Ghana dans un programme de développement des biens et des services. Comment ça marche ? Écoutez ses explications.
Quand vous regardez les chaînes d'approvisionnement des industries minières ou extractives de pétrole, il y a pas mal de choses que les pays peuvent produire chez eux au lieu d'être importées. Donc c'est toute la chaîne d'approvisionnement en biens et en services. Si on a une stratégie d'industrialisation, en fait, sur le long terme, ça va développer plus d'activités au niveau national, pas nécessairement en aval, mais surtout en amont, parce que c'est là où il y a le plus d'opportunités d'affaires. Mais tout ce que l'usine achète pour les opérations de courante, il y a pas mal de choses en fait, qui peuvent être faites localement. Et aujourd'hui, il y a très peu. Au Ghana, on avait vu, il y a au moins 20 à 30% de dépenses qui peuvent être achetées localement. Le pétrole, le fuel, comme on dit. Le transport, la logistique. Bien sûr, ça nécessite pas mal d'investissements.
Vous l'avez dit, ces infrastructures, ça nécessite des investissements. Mais comment est-ce que ces pays peuvent trouver de l'argent ?
Ce qu'on est en train d'essayer d'appuyer aussi, c'est que les infrastructures ne soient pas utilisées uniquement à des fins du secteur extractif et que ça puisse créer des liens entre le secteur extractif et d'autres secteurs de l'économie, pour le transport des marchandises ou pour l'approvisionnement, mais aussi qu'on puisse créer des routes, des lignes, que les autres secteurs de l'économie puissent utiliser ces infrastructures.
Il y a un pays, la RDC, alors qu'il y a beaucoup de minerais. En même temps, c'est un pays où il y a des conflits, où les distances sont énormes, où il y a aussi des trafics liés à ces minerais. Comment est-ce qu'on peut trouver dans ce cas-là des solutions pour la RDC qui a une situation vraiment particulière en Afrique ?
Ça, c'est toute une coopération internationale qui est importante parce que le problème des conflits, il faut traiter le mal à la racine. Quand vous regardez, par exemple, les minerais comme le titane, le tantale et l'or, il y a tout un programme de développement de coopération internationale pour s'assurer que ces minerais-là n'entrent pas dans la chaîne d'approvisionnement. Mais ça, le problème est beaucoup plus complexe.
Et aussi, peut-être impliquer davantage les grandes entreprises. Enfin, on sait, par exemple, faire des téléphones portables, il faut ces minerais qui viennent de RDC. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que les entreprises, les multinationales soient plutôt transparentes et regardantes sur leur approvisionnement.
Oui, bien sûr. Mais le problème, en fait, si vous regardez bien au niveau international, que ce soit les règlements de l'Union européenne ou les règlements américains avec la loi Dodd-Frank, si vous êtes une compagnie multinationale qui est listée sur une bourse en Europe, États-Unis, en fait, vous avez une obligation. Je ne dirais pas que les problèmes sont réglés, mais elles ont des obligations légales et elles n'ont pas le droit, elles sont obligées pour pouvoir être listées, elles sont obligées de montrer qu'elles sont capables de tracer l'origine des minerais qu'elles utilisent sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et ça, l'Union européenne, l'année dernière, a sorti sa directive. La loi Dodd-Frank oblige les compagnies multinationales à le faire. Mais le problème, pour moi, c'est pas les grosses boîtes qui sont listées sur les bourses. C'est les petites boîtes qui n'ont pas d'obligation ou n'envoient pas leurs biens forcément en Europe ou en Amérique. C'est plutôt peut-être les chaînes qui vont ailleurs, en Chine. Et ça, les cadres légaux internationaux, malheureusement, les pays où ces entreprises-là sont basées, c'est elles qui doivent prendre le leadership. Et souvent, au niveau international, vous avez les pays développés qui le font, mais malheureusement, les autres pays émergents, qui sont aujourd'hui des pôles industriels, malheureusement, tous les pays n'ont pas le même cadre légal. Et ça, c'est un peu le problème qu'on rencontre. Par exemple, si vous regardez les téléphones portables, aujourd'hui, vous en avez qui, je ne veux pas nommer des pays, mais qui ne sont pas forcément faits en Europe ou aux États-Unis ou en Chine, mais ailleurs.
C'était Isabelle Ramdou du Centre africain de développement minier. Pour réentendre ce numéro, allez sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.